cobas.com. Rencontre par Marc Sisman.
Didier Vampas.
Bonjour.
Alors Didier Vampas qui vient nous parler, non pas d'Evampas, mais de lui-même, de Didier Vampas, puisque sort un album solo,
voilà.
Chose assez rare, voire inédite, qui s'appelle Taisez-moi,
ouais.
Qui sort chez Atmosphérique. Alors c'est un peu toujours la question envie de poser quand il y a un album solo d'un groupe qui est toujours en activité. Est-ce que c'est parenthèse, un interlude? Est-ce que c'est parce que les autres n'ont pas voulu des chansons en question? Est-ce que c'était un rêve humide il y a plein d'années?
Non, c'est pas un rêve. C'est... Oui, c'est vrai qu'on répétait moins ces derniers temps, tout le monde était un peu à gauche à droite, et quand la maison de disque m'a proposé de faire un disque solo, au début j'ai dit non, parce que disque solo pour moi c'est variette et tout, j'ai dit non, c'est hors de question. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'il y a plein de petits groupes à Los Angeles que j'aimais bien depuis 2-3 ans, et on m'a proposé de faire les maquettes à Los Angeles, alors j'ai dit évidemment oui. Ils m'ont préparé sentiment. Voilà, 10 jours à Los Angeles sur des maquettes et voilà. On s'est retrouvés à 3 dans un garage avec Kevin et Ryan et c'était super bien. Tout de suite, j'aurais joué les chansons et c'est parti. Et ça collait tout de suite.
Est-ce que ça veut dire que des chansons écrites, quand on écrit pour des chansons qui vont être enregistrées par soi et quelques musiciens, on va dire, inhabituels, c'est, on n'écrit pas de la même manière que quand on sait que ça va être chanté par les Vampas?
Non, c'est les mêmes chansons. C'est
d'accord,
les chansons
ça change rien.
Non, j'écris les chansons pareilles.
Strictement rien. Et est-ce qu'en termes justement d'écriture, pareil au niveau de la musique qui va avec tout ça, que ce soit les mélodies, l'instrumentation, c'est la même chose aussi? C'est vraiment quelque chose qui se fait de toute façon toujours de la même manière un peu?
Les mélodies, oui, mais l'instrumentation, non, parce que ce n'est pas les mêmes musiciens. C'est beaucoup moins punk, il n'y a pas de guitare saturée, ouais. c'est resté bloqué 65, Kevin, Ryan est bloqué. Beatles, Kings, donc c'est pas du tout.
C'est
bizarre
précis,
parce que les chansons. Il y a une chanson, Punk Ouvrier, qu'on a fait sur le disque d'avant, qu'on n'a pas sorti, mais ça change complètement, quoi. Le fait d'être joué comme ça, c'est plus la même chanson du tout. De pas avoir le. Voilà, c'est la même chanson, mais jouée différemment, et ça change complètement.
Est-ce que justement, de se retrouver comme ça dans un studio avec des musiciens avec lesquels on n'a pas l'habitude. Avec pas les habituels, j'allais dire, ça change quelque chose. C'est-à-dire sur quand on réécoute après, sur ses propres chansons, sur même son chant, j'allais dire.
Le chant, surtout le chant, ça a changé. Quand il y a une grosse guitare saturée, tu peux te permettre de chanter différemment, mais là, quand le son est, quand il y a pas la guitare saturée, le chant, t'es obligé de chanter différemment.
Alors effectivement, il y a un peu un esprit, on parlait tout à l'heure de 65, il y a un esprit un peu 60s, effectivement on peut penser à certaines chansons yéyé un peu des années 60 ou des choses un peu à la Dutronc ou autre. Il y avait une volonté dès le début de donner un esprit particulier à l'album, ou c'était plus en fait une succession de chansons qui se sont retrouvées un peu dans la même boîte?
Ouais, c'est toujours ça, c'est toujours un hasard. Mais les chansons, s'il y avait une guitare saturée, on dirait que c'est du punk, alors que toi les Ramones, t'en avais la guitare saturée, c'est simplement l'instrumentation qui change. J'ai pas créé chanson spécialement pour ce disque, mais c'est vrai que le son est vraiment tellement différent que ça change tout, quoi, tout l'esprit.
Et alors justement, au niveau de la voix, tu disais que ça faisait bizarre, c'est-à-dire que ça t'a fait chanter différemment? Est-ce que tu as fait des choses, par exemple, que tu avais l'impression de pas avoir fait auparavant?
Ouais. C'est la première fois. D'habitude, les producteurs, au bout d'un moment, ils essayent un jour ou deux de me faire chanter un peu différemment. Et au bout d'un moment, ils craquent, ils disent « Bon, allez, vas-y, chante comme tu veux et ce sera mieux comme ça. » Alors que là, Kevin, c'est le producteur qui est aussi batteur. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait, il parle pas un mot de français. Et on est resté 2 semaines à me faire, il est resté 2 semaines à me faire chanter dans le fin fond de sa cuisine, parce que je chantais chez lui dans sa cuisine, et il m'a fait vraiment chanter différemment.
Donc il a été hypnotisé par la musicalité de la langue française,
sans comprendre les mots. pas comme il a fait, mais c'est la première fois que je chante comme ça, je ne me reconnais pas. Enfin, si, j'exagère. Non, mais là, je chante bien, mieux que d'habitude. Plus juste et tout ça. Enfin, bon.
Tu disais de chansons.
Mais les chansons, ouais.
Une bonne chanson pour toi. Est-ce que tu sais rapidement si, quand ta chanson est terminée, c'est une bonne chanson ou pas? Est-ce que tu en mets énormément à la poubelle? Comment ça fonctionne?
Bah, d'habitude, moi, j'écris plein de chansons en yaourt. Je mets les paroles toujours au dernier moment. Généralement, on répète avec les autres, on répète, on joue les chansons, on voit tout de suite si ça colle ou pas. Mais là, j'avais plein de chansons, et on a fait un peu pareil. Je suis arrivé dans le garage à Los Angeles, je leur ai joué des chansons, et voilà. Mais où on sait, quand tu écris une chanson, tu sais si elle est bien ou pas tout de suite.
Est-ce que c'est celle dont tu es le plus fier? C'est celle que tu as écrit finalement le plus rapidement?
Ouais, souvent, oui. Souvent, c'est en 5 minutes le mieux, il n'y a pas que moi. Quand tu lis les histoires du rock en général, ou de la meule de la chanson... Le nombre de bonnes chansons qu'on a écrit en 5 minutes, sous la pression.
Alors on reconnaît un peu toujours la touche, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des choses qui sont un peu quiches, des choses décalées, toujours d'une certaine manière l'humour. Alors là, cette fois-ci, il y a eu, auparavant, on peut dire, je ne sais pas si on peut appeler ça des cibles, il y a eu du Chao, Chirac, cette fois-ci, c'est Sardou qui est sur le grill. Comment on en arrive à ce genre de choses? C'est-à-dire, concrètement, comment arrive une idée comme ça? Est-ce que c'est... une réaction instantanée à quelque chose, et hop, je sors mon stylo, je gratte des mots. Est-ce que c'est quelque chose qui était enfoui en soi? Comment ça fonctionne?
Moi, Sardou, simplement, je te donne une voiture un jour, je ne sais plus, puis il y a une chanson de Sardou à la radio, je me suis dit, tiens, tout le monde essaie d'écrire pour Johnny, pourquoi pour Sardou, personne n'existe? Pourquoi il est pestiféré? Toi, tout le monde est bien vu en France, tout le monde reprend toujours, voilà, tout le monde un jour devient politiquement correct et repris... Mais Sardou, non. Pour l'instant, il est...
Oui, parce que si je peux préciser
que c'est un drôle de... Voilà.
La chanson s'appelle Chanteur de droite, que j'ai pas précisé.
Ça, c'est un défi, quoi. Essayer d'écrire une chanson au premier degré pour défendre Sardou.
Il y avait eu les rockers de droite, d'ailleurs, pour Bijoux. Voilà. Pour la formation de Bijoux qui avait été
écrit. C'est vraiment du... Mais j'ai pas écrit la chanson tout de suite. J'ai eu l'idée en tête, et voilà, après, j'ai écrit.
Mais c'est aussi, il y avait déjà ce côté un peu de casser un peu ce qui est... Enfin, parfois politiquement correct, avec l'affaire ou la chanson Manu Chao, qui était aussi pareil. C'est quelque chose de toucher un peu une icône que personne n'ose trop.
Alors, Sardou, c'est le contraire, c'est défend. C'est plutôt un truc punk, voilà. Justement, pour aller. Même maman.
Parce que c'est tellement facile, j'allais dire presque, de casser Sardou, que c'est quelque chose.
Moi, je voulais le
défendre. Il a réagi, il y a eu
non,
des.
J'ai pas une...
même pas ma des maman... cours, rien du tout.
Non, même ma maman, pas là-dessus. Bah, quand même, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le bass du punk, choquer sa maman quand même. Tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Le bass du rock'n'roll et du punk, c'est de choquer sa maman.
Y arriver après plus de 30 ans de carrière, voilà. C'est ça, c'est encore c'est un fait d'armes.
Voilà.
autodérision, tout ce qui est décalé dans la musique, c'est quelque chose que tu as eu en toi tout de suite quand tu t'es lancé dans le rock'n'roll?
C'est ni l'humour ni le décalage. Pour moi, c'est surtout pas se prendre au sérieux. Quoi. C'est surtout ça. Quoi. Moi, j'ai une espèce de. J'ai tellement pas envie de me prendre au sérieux, ni que les gens me prennent au sérieux, à la limite.
Mais parfois, on peut pas se prendre au sérieux en écrivant des choses graves ou des choses.
Ah oui, bien sûr. Oui. Mais j'ai
qui
pas...
est parfois sur le disque. D'ailleurs, tout n'est pas uniquement.
Ah non, mais il y a pas. Pour moi, c'est pas de l'humour. Gratter, autre, j'ai pas l'impression de faire de l'humour jamais. C'est juste plutôt de l'absurde à la limite. Bah comme toi, moi, mon idole, c'est Trenet. Et Trenet, tu vois, il y a plein de gens. Pour qui Trenet, c'est pas un chanteur sérieux, quoi, tu vois. Pour qui, voilà.
Est-ce que c'est quelque chose que de dire par mon idole, c'est quelque chose que tu avais en toi quand tu étais vraiment très jeune, au fil des années, en écrivant toi-même, en écoutant, évidemment, que tu as réalisé un peu tout ce que tu viens de dire sur ce qu'est la chanson, la musique, l'humour ou pas l'humour?
Ouais, c'est venu. Trenet, mes parents n'écoutaient pas Trenet, c'est peut-être pour ça que moi j'ai découvert tout seul quand j'ai eu 20 ans un jour. C'était un coffret de Charles Trenet, là, c'était la révélation, vraiment. Ouais. C'était au début des Vampas, je commençais à écrire et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire après, quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui,
qu'est-ce que je vais écrire après Trenet, quoi.
Aujourd'hui, tu as des révélations ou pas? Est-ce qu'on parle, on a pas mal parlé de chansons, donc ouais. Est-ce qu'il y a des gens, des compositeurs de chansons qui t'impressionnent aujourd'hui en 2011 ou tu écoutes des gens connus, pas connus, en disant, ça c'est vraiment une chanson que j'aurais rêvé d'écrire ou qui
des révélations, non, pas tellement. Non, mais j'écoute beaucoup de musique classique et.
Alors la légende veut que tu écoutes, voilà, que tu sois fan de Cobuz, je précise, et que tu n'écoutes pas que les Kings ou les Vampas sur Cobuz. Mais justement, du classique, avant d'en rentrer dans ce studio, tu nous parlais des écoutes comparées de Classica.
Ouais.
Donc, alors justement, le classique, par exemple, c'est quelque chose que. Comment ça s'est passé? C'est comme le coffret Trenet, c'était une révélation un jour ou...
Non, je me suis forcé, c'est au début des années 90, j'écoutais plein de rock, ça faisait 20 ans que j'écoutais du rock. J'avais un peu le tour, que je comprenais, tu vois. Je me suis dit, il y a quand même la musique, c'est toute ma vie, c'est tout ce que j'aime. Et il y a quand même une grosse partie de la musique à laquelle je comprends absolument rien, que je connais pas. Et je me suis forcé, je me suis dit, tiens, je vais aller à la discothèque pour écouter les CD, aller lire des bouquins, aller écouter France Musique. Et pendant 10 ans, j'ai écouté France Musique tous les jours. Et voilà, et petit à petit.
C'est un bon titre de chanson pendant 10 ans.
C'est un langage, tu vois, c'est un langage. Au début, tu comprends rien, quoi. C'est comme tu entends parler en allemand. Bah, on a beau dire les plus belles choses, tu comprends pas l'allemand, tu comprendras rien. La musique classique, c'est un peu ça. Au début, tu comprends rien. Et petit à petit, tu apprends le langage, tu comprends, tu rentres dedans et tu ressens des émotions, tu ressens plein de choses. Et voilà, j'ai voulu, quoi. Ça, c'est une vraie démarche, quoi, d'écouter de la musique classique.
Et comment tout ça impacte, vient s'immiscer dans tes créations personnelles, justement?
Bah, ça. Ça me facilite encore le fait de faire du rock'n'roll parce que ça relativise tellement. Quoi. Quand je prends ma guitare, de toute façon, quand tu viens d'écouter une symphonie de n'importe qui d'ailleurs, t'as pas la prétention d'être à ce niveau-là. De toute façon, donc de toute façon, ça relativise. Je prends ma guitare et je suis content de faire des petites chansons et je sais où j'en suis. Quoi. Tu vois ce que je veux dire. Quand t'écoutes que du rock, au tout début des Vampas, j'écoutais que du rock. Et quand tu prends ta guitare et que tu essaies de te positionner par rapport à aussi bien des génies de. Des années passées ou des trucs qui se font aujourd'hui. Tu vois, il y a plein de groupes, c'est ça, tu vois. Ils essayent de se positionner par rapport à ce qu'ils font, à ce qui se fait ou tout ça. Moi, je m'en fous tellement de ça. Je suis tellement décomplexé, quoi. Ça décomplexe et je sais pas. Et puis ça me nourrit d'écouter la musique classique. Quand je prends ma guitare, ben voilà, j'ai envie de faire du rock'n'roll encore plus facilement, encore plus, quoi.
Est-ce que ça veut dire qu'au fil des années, plus les années avancent et plus tu écoutes des choses à l'opposé de ce que tu fais?
Ouais. Mais j'écoute du rock'n'roll, j'écoute du rock hein, de temps en temps, tu vois, je suis abonné au NME et je regarde tous les petits trucs qui
dès
sortent. Qu'il y a un
nouveau nom,
tout.
T'écoutes pour
ça. Et grâce à Cobuz, on peut écouter tous les trucs qui sortent. Non, c'est vraiment plus. Télécharge. Pour ça, c'est bien. Ouais. On peut écouter tout ce qui sort et voilà.
Et alors donc, c'est bien effectivement d'être fan de la musique dématérialisée, comme on dit, en écoutant sur Cobuz. Mais malgré tout, tu restes aussi fidèle, j'allais dire, tu fais un peu le 360 degrés, fidèle à l'ancienne école, au vinyle.
Ouais,
puisque cet album va sortir également en vinyle.
Ouais, on sort l'album en vinyle en mono. Il y aura un code pour télécharger en stéréo et puis sur le CD on pourra le télécharger en mono. Je voulais sortir au début que en mono, je voulais sortir le CD faire que du mono. C'est par hasard.
Pour coller aux 60s aussi?
Non, je sais pas pourquoi, c'est parce que le producteur m'envoyait les mix et un jour j'écoutais une chanson, je me suis dit tiens, faudrait essayer en mono. Je lui ai dit tu peux pas me faire un mix en mono? Et putain, tout de suite ça prend une autre dimension en mono, ça prend une patate incroyable.
Donc, est-ce que tu avais justement par rapport à ça, par rapport au son que tu voulais sur cet album, on a parlé des années 60, est-ce que tu avais des disques ou des choses de référence avec lesquelles tu as parlé
tout.
Ou pas?
Non, pas du tout, non. Non, je te jure.
Au feeling, c'était.
C'est au feeling, tout au feeling. Non.
Quel regard tu portes justement sur toutes les évolutions aujourd'hui, que ce soit la musique enregistrée, la crise du disque, la façon dont le public a évolué, etc. Est-ce que finalement tu fais ton truc et tu regardes ça de manière un peu naïve, ou est-ce que tu as vraiment une sorte de réflexion, d'idée, d'amertume, ou au contraire de... Comment tu t'analyses un peu toute cette évolution, cette situation aujourd'hui ?
Bah, en tant qu'artiste, on est plus mal placé, tu vois, pour parler de ça. Moi, dès le départ des Vents Passent, dès le départ, ça m'a pas... J'ai peut-être eu la chance, comme disait Balasco, d'avoir des parents communistes, et je m'en fous. Enfin, tu vois, dès le départ, j'étais tellement content de faire un groupe de rock, de faire des chansons, de répéter, de monter sur scène, que tu vois, ça m'a jamais travaillé, là, toute cette histoire de vendre des disques, ou de comment... À l'époque... Les groupes refusaient les grands labels, tu sais, les majors voulaient monter leur petit... Oui, il me fallait monter son label. Je veux dire, c'est pareil, moi, j'ai jamais voulu aller voir une banque emprunter de l'argent pour monter ton petit label. Tout ça, ça m'intéresse pas. Tu sais, moi, je travaille à côté, je bosse toujours à l'RATP, et je fais de la musique, et... tu vois, on en parlait encore tout à l'heure, et...
Mais est-ce que justement, le fait pas...
La musique, est-ce que ça va devenir? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a toujours des gens qui voudront faire de la musique, des gens qui voudront écouter de la musique, des gens qui voudront gagner de l'argent en mettant les deux en relation. Quelle forme ça prendra, j'en sais rien, mais je m'en fous. Tu sais, bah, vraiment, je m'en fous. On s'est fait virer d'Universal, tu vois, sur le disque d'avant. Moi, si un jour, il n'y a plus rien, bah, je m'en fous. Quoi. Je mets mon magnéto au milieu du local de répète, je fais mes chansons, je les enregistre comme ça. Ça ne changera rien du tout pour moi, mais vraiment rien du tout. Quoi.
Mais est-ce que ça, justement, pour, ça ne changera pas, rien pour toi, parce que aussi, les Vents Passent ont la chance, j'allais dire, d'avoir encore du succès. C'est-à-dire que le groupe remplit encore des salles, fait des tournées marathon. On peut pas dire que c'est un vieux groupe au sens où, quand même, il y a des années de compteur. Mais en même temps, c'est un groupe qui continue quand même à avoir un public même qui se régénère, comme on dit. Tu dis, on s'est fait virer, mais bon. Pouvoir bondir, etc. Donc c'est pas non plus, t'es pas dans une période où c'est une impasse. Donc est-ce que justement t'as pas d'amertume peut-être parce que j'allais dire pour les Vents Passent c'est la situation est encore un petit peu rose par rapport à d'autres artistes ou d'autres groupes qui justement.
Quand je dis moi, je m'en fous, c'est pas simplement je m'en fous, c'est un truc positif. J'ai décidé de pas m'intéresser. C'est-à-dire on aurait pu quoi être sur Universal, c'est-à-dire c'est la chance de notre vie d'être sur Universal. On est sur le major, faut y aller, espérons que ça marche. Ça, j'en ai rien à foutre quoi. Mais vraiment ça m'a On s'est fait une chanson, on m'en fout de leur gueule, on s'est fait virer. Et je m'en moquais complètement. Je savais même pas si j'allais retrouver une maison de disque derrière, quoi. Mais ça me. Pas une seconde dans ma tête, je pense à ça, franchement. Hein. Je pense vraiment qu'à l'artistique, à écrire des chansons. Et après, je me dis, on verra bien. Mais c'est important. Hein. S'il y a plein de groupes qui sont aigris, moi, je vois hein, tous les groupes autour de moi.
Qu'est-ce qui aide justement plein... Qu'est-ce qui aide à
pas le fait que je travaille à côté. Moi, je bosse à la RATP et ça me paye mon loyer. Et le reste, tu vois, si je gagne pas d'argent avec la musique, tant pis, quoi. Et ça aide vachement. Hein. Tu vois, je vois plein de groupes qui sont honnêtes, sincères, ils se mettent... un jour, ils se disent, on arrête tous de bosser, on se met à fond dans la musique. Et là, si ça marche pas, tu fais quoi? T'arrêtes la musique? Parce que ça marche pas? C'est débile, moi je veux pas arrêter de faire de la musique parce que je vends pas de disque. C'est tellement... tu rentres dans le système, point et pied lié, voilà, tu dis, allez-y, faites de moi ce que vous voulez. À partir du moment où t'as besoin de bouffer, pour bouffer, t'as besoin de la maison de disque, des radios, de tout ça, t'es mort, quoi. Tu rentres dans le système et t'es dépendant entièrement du système pour vivre. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver en studio un jour à me dire « Putain, faut que j'ai une chanson qui passe à la radio, quoi. » C'est tellement le contraire de ce qu'il faudrait faire.
Elle est entrée par la fenêtre, nous a parlé de fleurs, de thym et de romarin, et aussi du malheur qui rendrait les gens jolis. Moi je la comprends tellement que ça en devient gênant. La folle de Marvejols, n'aie pas peur, la folle de Marvejols. Je suis comme toi, la folle de Marvejols. Tout le monde la trouvait bizarre, mais moi tellement normal. C'est pas que ce soit normal d'être fou, mais c'est normal d'être intelligent et seul dans un monde de fous et de trouver ça bizarre, la folle de Marvejols. Quand elle a mal aux dents, la folle de Marvejols va sûrement chez le coiffeur se faire une permanente en espérant secrètement que ça dure jusqu'au printemps. En espérant ça dure jusqu'au printemps. puis aller à Mende. Oui, mais Tony, ce soir-là, ne voulait rien entendre. Elle voulait juste savoir si moi je la trouvais ce soir-là intéressante. Voilà la réponse. Ne pleure pas, la folle de Marvejol. Je suis comme toi, la folle de Marvejol. Oh oui, j'espère secrètement que ça dure jusqu'au printemps. Secrètement que ça dure jusqu'au printemps.
Que justement aussi l'autre poche d'air ou d'oxygène qui aide aussi, au-delà du fait de travailler à côté dans un métier, un boulot qui a strictement rien à voir, c'est aussi de voir des gens qui sont pas du tout dans le même métier, dans le même, qui sont dans la vraie vie, comme on serait tenté de dire.
Bah oui, parce que mine de rien, les musiciens, à force de tourner, ils se retrouvent quoi dans les festivals à discuter entre eux.
C'est consanguin.
Ouais, c'est presque ça, ouais. Non, c'est vrai. Hein.
Si on revient sur cet album, il est terminé, il va sortir. Ouais. Bon, t'as envie de l'amener sur scène, tu sais pas trop encore.
Bah, il y a une tournée prévue là de deux semaines là pour l'instant, et ça va me faire très très bizarre ça par contre. Je suis tellement habitué à jouer les chansons des Vents Passent que ce soit tellement efficace que je sache exactement ce qui va se passer, que je lève le bras, poum poum, je sais que tout. Et là, des nouvelles chansons avec un nouveau groupe, ça va me faire très 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 bizarre.
Est-ce que ça veut dire que déjà l'album est terminé, ça t'a déjà motivé à en écrire d'autres ou éventuellement en enregistrer d'autres, tu sais pas trop,
le fait que je joue pas de guitare sur ce disque, j'ai eu plein de temps de libre, évidemment. Et j'étais à ICP, on enregistrait à ICP à Bruxelles. J'avais mis une guitare et un ampli dans un petit local. J'ai fait plein de chansons pendant deux semaines et j'ai plein de chansons de côté.
Donc il y en a qui iront pour les Vents Passent et d'autres pour...
Voilà, j'en sais rien. Toi, je me projette vraiment pas du tout dans le futur. Je me projette pas du tout, du tout. Je me suis jamais projeté depuis le début. Je suis tellement content de faire ça, je dis toujours ça, mais c'est vrai, c'est tellement une chance de pouvoir faire, de vivre son rêve de môme. Quand j'avais 15 ans, c'était mon rêve, quoi. J'étais tout seul dans ma chambre à écouter des disques. Putain, de pouvoir faire des chansons, jouer de la guitare, monter sur scène. Le reste, franchement, c'est du bonus. Mais voilà.
Qu'est-ce que t'es, quel mélomane tu es? Alors, tu nous as dit tout à l'heure un peu ce que t'écoutais, beaucoup de classiques, pas mal de choses finalement qui étaient un peu en dehors de ce que tu faisais. Est-ce que t'es une sorte de glouton? T'écoutes tout le temps, t'as des phases, tu vas au concert. Dès que t'entends un nom, t'as envie de savoir ce que c'est. Quand tu découvres un musicien, un compositeur, un groupe qui t'intéresse, là, qu'après tu veux tout savoir. Comment ça se passe? Où t'as des phases? Ou est-ce que...
Moi, j'ai surtout pas beaucoup de temps. Je travaille, j'ai des mômes, je fais de la musique à côté. Alors, j'essaie de gérer le plus possible.
Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que la musique en tant qu'auditeur, en tant que mélomane, c'est à autant d'importance qu'elle l'avait quand t'avais 15 ans?
Ouais.
Parce que parfois, t'as certaines personnes qui, au fil des années, restent toujours, mais même bien de temps en temps, un peu le silence, couper le son, etc.
Oh non, j'écoute de la musique tout le temps, moi. J'écoute de la musique. Bah, le fait d'avoir découvert le classique, ça ouvre tellement un monde. Parce que le rock'n'roll, c'est... Tu vois, ça a quand même quoi, ça a 50 ans d'existence. Ouais, tu vois, c'est quand même... T'as vite fait le tour. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, j'allais à la discothèque prendre des disques et tout. J'ai l'impression qu'au bout de 3 ans, j'avais fait le tour. Je connaissais, j'avais un peu tout compris. J'avais écouté le blues, j'avais écouté, tu vois, j'écoutais les Jams, ça ressemble aux Kings. Alors j'écoutais les Kings, et après, voyez, ils reprennent tel bluesman, j'écoutais. Enfin, je veux dire, au bout de 3 ans, j'avais tout fait le tour. Musique classique, ça fait 20 ans que j'en écoute, je suis loin d'avoir fait le tour.
Et alors en ce moment, tu es dans ta phase quoi? Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu as une période, tu écoutes quelque chose de particulier qui te fascine en ce moment? Pas plus qu'un...
Non, il y a plein de trucs, mais il n'y a rien
qui te
fascine.
Il n'y a rien qui
te... En même temps, c'est le danger, les sites comme voilà, comme parce que
on zappe.
Tu rentres chez toi, tu regardes, oh là là, qu'est-ce que... Il y a tellement de trucs à écouter que tu zappes beaucoup plus que... Évidemment, je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais quand tu traversais tout Paris pour acheter un vinyle et que tu rentrais chez toi,
mais
justement, ton vinyle...
Ce que tu décris, c'est un peu, j'allais dire...
Là, tu l'écoutais.
La façon, justement, avant, il y avait effectivement une quête et une façon d'obtenir la musique qui était différente, qui fait qu'on l'écoutait différemment, on prenait peut-être plus de temps et on avait moins tendance à zapper.
Ça, c'est sûr que là, je rentre chez moi, je lis l'ennemi ou je suis sur le titre de Cobes, j'écoute un peu de tout, mais quand tu écoutes un album en entier, c'est déjà rare. Hein. C'est bizarre ça, mais bon, c'est comme ça.
Comment s'est fait le choix des musiciens donc américains avec lesquels tu as bossé? Un hasard aussi?
Totalement le hasard. Je suis parti à Los Angeles, je ne savais même pas avec qui j'allais jouer. J'ai pas envie, je ne sais pas. Je me dis, voilà, je me laisse porter un peu. Bah, c'est parce qu'on discutait avec la maison de disques, qui connaissait justement un producteur là-bas, qui fait batteur en même temps, Kevin, et puis il a appelé un guitariste, et voilà, c'est le hasard total. Il a écouté un peu mes maquettes et puis voilà. Il a essayé de trouver un musicien qui collait à ce que je faisais, ce que j'avais envie de faire. Donc je me retrouve avec des petits jeunes. Petit guitariste de 23 ans.
Est-ce que tu vas au concert de temps en temps contre le temps? Tu disais, j'ai malheureusement pas trop le temps de faire de choses. Est-ce que la musique live,
c'est... Ouais, j'étais voir Brian Wilson hier soir. Là.
Et alors les échos?
Moi je l'ai déjà vu trois fois. Ouais. Donc la première fois, tu dis, ah ça y est, ouais. J'en suis pas tabac quand ouais. T'as joué son œuvre. Bon, la troisième fois.
Commence à être un peu liquide.
Ouais. J'ai vu les Beach Boys il y a trois mois, c'était mieux. Mm-hmm. C'était mieux parce que Mike Love, même s'il est liquide aussi, au moins ouais. Il est debout, il chante et c'était plus rock'n'roll. Là, c'est un peu la grand-messe, tout le monde est là. Ouais. Mais c'est dur quand même. Brian Wilson, là, il regarde son écran et il est sur son synthé. Visuellement, ouais. C'est dur, quoi. Ouais. Mais bon.
Bien, bah écoute, Didier Van Passe, merci d'être venu nous parler de Tes et moi.
Voilà. Bah, merci et, à vous.
Continue d'être fidèle à Cobuzz. Bah, oui. Merci.
Je ne veux pas acheter de maison, je veux pas acheter d'appartement. J'ai rien à part une vieille idée. La propriété c'est du vol. Mais si demain tu me quittais, et si demain tu t'en allais, je souffrirais tellement même si la propriété, c'est du vol. Je ne serai jamais à toi. Tu ne seras jamais à moi. Rien ne sera jamais à personne. Alors pourquoi s'en faire? Pourquoi s'en faire? Laissez-les dire. Ce à quoi je crois, la propriété c'est du vol. Tu serais pour toujours à moi, mais même en rêve je ne veux pas. Car je sais que même en amour, la propriété c'est du vol. Tu ne seras jamais à moi. Je ne serai jamais à toi. Garderai ma vieille idée. La propriété c'est du vol. Mais si demain tu me quittais, et si demain tu t'en allais, je souffrirais tellement même si la propriété c'est du vol. La propriété c'est du vol. La propriété c'est du vol.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.